Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On est dans Jean chapitre 11 et le verset 25. Amen. Je peux vous dire que je suis content de connaître le Seigneur, parce que quand on connaît le Seigneur Jésus, on a un espoir pour demain et on a un espoir pour aujourd'hui. C'est merveilleux. Amen. On va premièrement pencher nos têtes, on va prier, on va remettre ce temps au Seigneur pour la prédication de la parole. Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu nous parles encore. Tu as encore un désir pour tes enfants. Et Seigneur Dieu, on accueille la présence de ton esprit, cet esprit de révélation, de nous accorder justement ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de comprendre, Seigneur, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, comme je viens de dire, Dieu est vivant. Et Dieu veut qu'on vive dans un cycle de la vie. Dieu a ce désir-là pour ses enfants, qu'on puisse expérimenter la vie. Et on va lire un verset ensemble ici, ça dit, c'est Jésus qui parle à Marthe, qui lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ça, c'est Jésus qui parle à Marthe. Crois-tu cela? Et elle a dit finalement, « Oui, j'y crois. » Et nous aussi, on peut dire, on croit. On croit dans cette vie éternelle et on croit dans la vie éternelle même aujourd'hui, qu'on a l'assurance de notre salut. On sait que si on mourait aujourd'hui, qu'on s'en irait auprès de notre Père céleste. C'est merveilleux d'avoir l'assurance dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais une autre chose aussi, je trouve, c'est la vie éternelle, c'est pas juste pour demain. C'est pas juste un jour, peut-être, si on est assez bon, on va mériter la vie éternelle. Mais aujourd'hui même, on peut bénéficier de la vie éternelle et la vie en abondance. Et moi, je trouve ça merveilleux d'être un enfant de Dieu parce que le Seigneur prend soin de nous même aujourd'hui. Cette semaine, je peux vous dire, on a vécu des choses. Moi, le Seigneur m'a donné un rêve cette semaine. Et puis dans le rêve, Dieu m'a montré une façon d'être protégé. Vous savez que Dieu parle encore aujourd'hui et même par les rêves. Est-ce que c'est trop fort ce matin? Non, c'est correct. Et même hier, qu'est-ce qui s'est passé? On était en visite chez quelqu'un et ma petite Félicité était là. Il y avait une porte ici. Et ensuite, il y avait des escaliers, il y avait 10 marches. Et puis la petite, elle ne savait pas, mais la porte était mal appuyée. Puis elle s'est appuyée dans la porte, puis elle est tombée par en arrière. Elle a déboulé 10 marches, mais elle n'a rien vécu. Moi, là, quand on a vu ça, elle était dans le fond. Et puis la personne, la propriétaire de la maison, elle se sentait super mal parce que la porte n'était pas verrouillée. Puis elle avait été angoissée, puis je la comprenais aussi. Mais en même temps, j'ai dit, inquiète-toi pas, on a des anges. C'était ma réaction, parce que justement, Félicité, elle tombait en bas, elle pleurait, mais c'était juste question de peur. Parce que moi, je crois vraiment que le Seigneur l'a attrapée. Il y a quelqu'un là qui l'a attrapée, elle n'avait pas de bleu à la bien. Et puis, on a prié pour elle, puis tout ça. Puis la petite Félicité, elle va bien. Mais tout ça pour dire là, qu'on a un Dieu vivant, qui prend soin de nous, qui nous protège, même malgré tout ça. Puis là, je suis allé consoler Félicité, puis j'ai dit, tu sais, tu as des anges hein, qui sont là, qui t'ont empêché, parce que vous savez, elle aurait pu se casser le cou. Ça, quand elle a tombé en bas, c'était une cave, là, une vieille cave, et c'était pas un beau tapis qui l'attendait, c'était du ciment. C'était assez. Elle aurait pu vraiment se blesser, mais j'ai vu la main de Dieu qui l'a protégée. Puis Seigneur, et comme ça, il est vivant, il se montre vivant dans nos vies, même par des choses simples comme ça. Et même la nuit passée, ma femme a eu un rêve. Vous savez, le Seigneur nous parle souvent avec des rêves. C'est une façon que le Seigneur, en tout cas dans notre vie, Dieu nous a parlé. Et des fois, je vous ai partagé les rêves que Dieu m'a donnés pour l'Église. Puis je crois que c'est de quoi qui nous aide à continuer d'aller de l'avant. Et la nuit passée, ma femme a eu un rêve. Puis elle m'a expliqué ça très rapidement, juste avant que je quitte pour venir ici. Alors, je n'ai pas tous les détails, puis je n'ai pas eu le temps de mijoter sur tout ça. Mais une des choses qu'elle a vues dans son rêve, elle disait que Marie-Pierre et Dominique, qui sont impliqués au niveau des médias, ne sont pas ici aujourd'hui, je pense, mais Dominique, peut-être. Mais en tout cas, c'est des gens impliqués au niveau des médias. Mais ces deux-là avaient un bébé entre leurs mains, et ce n'était pas le bébé qu'ils viennent d'avoir. C'est un autre bébé, c'est un petit garçon qui marchait et qui parlait après 5 jours. Donc, un bébé de 5 jours marchait et parlait, tout ça. Ça, c'est assez particulier. Et tout de suite, Mathilde, elle a compris que ça représentait comme notre bébé pour les médias. Okay? Donc, en dedans de 5 jours, ce bébé-là marchait et parlait. Donc, pour nous, on comprend que Dieu est en train de nous indiquer que prochainement, là, et très rapidement, Dieu va faire quelque chose par les médias. Et vous savez, même avant de déménager en Alberta, le Seigneur nous avait donné des rêves pour nous guider dans tout ça. Alors, on croit vraiment que le Seigneur se sert des rêves encore aujourd'hui. Et là, par la suite, elle dit à 11h20, 11h25 du soir, elle quittait pour aller dans un grand hôtel, un hôtel très luxueux, chic. Et là, elle embarquait, puis elle avait d'autres personnes avec elle, puis je peux vous dire, là, elle me dit ça rapidement, donc il y a plein de détails que je vais vous dire, que Mathilde pourrait préciser, là. Mais elle disait qu'on montait, ou en tout cas, elle montait, puis il y avait Jean puis Martine dans le rêve, qui montaient dans un ascenseur. Et l'ascenseur, comme tel, c'était un magasin pour les bébés. C'était tous des produits pour les bébés. Puis là, elle m'a expliqué ça. Puis moi, je crois clairement que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de monter l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, Dieu nous équipe avec toutes les choses qu'on a besoin pour prendre soin des nouveaux-nés. Si on monte un ascenseur, et l'ascenseur, c'est même un magasin pour bébés, de produits pour bébés, comme une sorte de pharmacie, c'est en train de nous montrer qu'on est en train de monter. Dieu va nous faire monter très rapidement. Et là, ensuite, elle a monté dans un grand salon avec plein d'enfants et qui mangeaient juste des grignotines. Et puis, elle disait qu'elle voyait dans les plats, c'est comme des plats vides, mais il y avait comme fini, puis grattait toutes les pots ou les genres de bols qui étaient là. Les enfants de 5 ans mangeaient, mais c'était comme à la fin, il ne restait plus rien à manger. Puis, qu'est-ce que ça nous expliquait également? C'est qu'il y a des gens qui sont sauvés, qui sont des enfants de Dieu, mais qui n'ont rien à manger. Ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, mais ils sont juste comme au stade de 5 ans, qui n'ont pas eu de nourriture pour se développer. Et qu'est-ce que c'est en train de dire? Alors, par ça, elle dit qu'elle est allée dans un restaurant très cher, puis je me souviens plus trop exactement c'est quoi tous les détails à ce niveau-là, mais Dieu est en train de nous préparer finalement pour arriver à un certain point. Et Dieu est en train de même nous montrer les gens dont on va aider. Alors, il y a plein de détails. Sûrement, si Mathilde l'avait présenté, elle vous aurait donné plus de détails, parce que c'est elle qui a eu le rêve. Mais tout ça, ça nous encourage par le fait que Dieu est vivant. Dieu est en train de nous préparer à rejoindre des gens, n'est-ce pas? Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de bébés spirituels. C'est le fun de rencontrer des chrétiens de longue date qui connaissent le Seigneur. Ces gens-là vont nous aider à être ceux qui vont prendre soin des nouveaux bébés. Mais on croit aujourd'hui que le Seigneur est en train de préparer nos cœurs à prêcher l'Évangile et de voir beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de personnes qui vont être des bébés dans la foi, mais qui vont grandir aussi rapidement. Amen. Alors, connexion, résurrection, c'est quoi le rapport avec tout ça? Bien, tout ça pour dire que l'esprit de résurrection, l'esprit de Dieu qui est vivant encore aujourd'hui, parle encore. Il est encore en train de nous donner des choses dont on peut s'entretenir et stimuler notre foi par ses rêves, par les visions que Dieu nous donne. Et c'est merveilleux. Amen. Ce matin, puisqu'on va avoir le baptême tantôt, j'avais à cœur de vous parler des baptêmes qu'on retrouve dans la parole de Dieu et cette vie qu'on célèbre lorsqu'on se fait baptiser. Alors, je vais vous partager quelques textes ici. On va parler premièrement du baptême de la régénération. Vous allez dire, c'est quoi ça, Joël? Peut-être certains d'entre vous, vous savez déjà c'est quoi. Mais il y a toutes sortes de baptêmes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et il faut comprendre les différences, parce que quand on mélange tout ça, on devient confus. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit confus. Amen. Il veut qu'on connaisse la parole. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est lorsqu'on devient un enfant de Dieu et on a reçu la vie éternelle en dedans de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe de la mort à la vie. On est transféré d'un royaume à un autre royaume. Et avant, on était spirituellement mort. Vous connaissez ça? Avant de recevoir le Seigneur Jésus, nous sommes tous morts spirituellement. Mais quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, on lui donne notre vie, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, et là, il y a une lumière, il y a cette chandelle, si on peut, qui vient d'allumer. C'est le Saint-Esprit en dedans de nous qui vient nous habiter. Et on va voir ici, le baptême de la régénération, il y a un agent et un élément. Donc, l'agent, celui qui va faire ce baptême de régénération, c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit plutôt. Le Saint-Esprit qui va nous baptiser dans le corps de Christ. Et le mot « baptiser » ou « baptême » nous parle d'immersion. On est complètement immergé dans l'eau. Et dans ce cas ici, ça nous parle, c'est le Saint-Esprit qui baptise un croyant dans le corps de Christ. Est-ce que c'est trop scientifique ce matin? C'est pas trop scientifique, je vais l'expliquer. Donc, si on regarde dans la parole où on trouve ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, ça dit « Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, donc ici on parle du corps de Christ, par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. » Donc, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est là qui nous a attirés au Père et le Saint-Esprit nous incorpore dans le corps de Christ. Donc, tout d'un coup, on fait partie de l'Église universelle de Dieu, on est sauvé et on a reçu le Saint-Esprit en dedans de nous. Puis dans Romains 8, 9, c'est dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est clair, tous les enfants de Dieu ont tous le Saint-Esprit. Amen. Vous avez tous l'Esprit de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas sauvé, c'est clair? Donc, quand on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et des fois, il y a des gens qui veulent bien faire et ils disent, « Ouais, mais as-tu reçu le Saint-Esprit? » Et des fois, dans le monde pentecôtiste, on s'exprime un petit peu mal en disant, « As-tu reçu le Saint-Esprit? » C'est sûr, on a tous reçu le Saint-Esprit si on est sauvé. Amen. Mais là, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Est-ce que tu as vécu une autre expérience avec le Saint-Esprit qu'on va voir d'ici quelques minutes? Mais tous les enfants de Dieu, quand sont nés de nouveau, ils viennent de naître de cette nouvelle nature, ils ne sont plus morts spirituellement, ils sont vivants. Et là, ils ont reçu une vie éternelle qui ne périra jamais. Cette vie-là, elle va toujours durer. Amen. Donc ça, c'est le baptême de la régénération. Et en passant, j'en parle dans le livre « Le disciple victorieux ». Tous les versets sont tous écrits là et vous pouvez les étudier ensemble. Dans Galates 3, 27, ça dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ça, c'est merveilleux. Nous sommes baptisés en Christ, dans le corps de Christ. Et la semaine passée, j'ai donné une parole à l'Assemblée pendant qu'on louait le Seigneur. J'ai dit que je ressentais que le Seigneur était en train de nous remettre des nouveaux manteaux. Il est en train de nous revêtir. Je ne sais pas si la semaine passée ou la semaine d'avant, peut-être là deux semaines. Non, la semaine passée? Bon. Mais en tout cas, comme j'ai dit ça, mon frère Jean, il m'a dit par la suite, il dit, avant même que tu dises ça, Joël, il dit, j'ai littéralement senti comme de quoi qu'il venait m'envelopper. Et moi, je crois que le Seigneur est en train de, justement, nous revêtir de sa présence parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis on a besoin plus de lui. Amen? Mais nous avons tous l'Esprit. Si nous sommes nés de l'Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est assez simple. Nous sommes tous baptisés dans le corps de Christ. L'autre chose qu'on doit comprendre, il y a une différence, par exemple, entre être né de l'Esprit et d'être par la suite baptisé par l'Esprit. Vous allez voir ici, ou je devrais dire avec, pas par, mais avec, OK? Le baptême de puissance. L'image que vous voyez ici, c'était pris en Afrique, c'est des gens qui ont été remplis de l'Esprit. Et ça a été capté ici, on voit les flammes de feu. Et vous savez, dans le livre des Actes, lorsqu'on a vu que les 120 ont reçu l'infusion du Saint-Esprit, certaines fois, on va voir des illustrations dans des lits d'enfants et on dirait ces petites allumettes comme des bics. Avez-vous déjà vu ça, des illustrations comme ça? Et les apôtres sont là, les 120 réunis, et tout d'un coup, il y a une petite flamme, un petit bic au-dessus de leur tête. Mais ce n'est pas de ça que la Bible parle. Quand ça disait qu'il était baptisé du Saint-Esprit et de feu, ça voulait dire qu'il était complètement immersé dans cette puissance de Dieu. Et on va le voir dans la parole. Dans Actes 1, 8, ça dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La raison pour laquelle on reçoit cette puissance sur nous, c'est d'être équipé surnaturellement pour être un témoin pour Jésus-Christ. Et partout où Jésus se promenait, il faisait du bien, il guérissait les malades, il était équipé avec tout le surnaturel dont on a besoin pour être des vrais témoins de Jésus. Si on est des témoins de Jésus, on devrait agir comme il agissait, n'est-ce pas? Donc, partout où Jésus se promenait, il opérait des miracles. Et dans Marc, chapitre 16, ça dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons. En mon nom, ils vont guérir les malades. Ils vont prier pour les malades et les malades vont être guéris. Ils vont chasser les démons, tout ça. Et s'ils boivent des breuvages mortels, bon, ça ne leur fera pas de mal. On sait qu'on est appelé à vivre des grandes choses. Et le Seigneur Jésus a même dit qu'on va faire des plus grandes œuvres que lui. Donc, à quelque part, on a besoin de plus de puissance. Si on est satisfait à avoir le petit bic, c'est juste le minimum. Si on est satisfait juste d'avoir la présence de Dieu dans nous, oui, c'est glorieux d'avoir passé de la mort à la vie, mais Dieu ne veut pas juste nous donner sa présence, il veut nous inonder de sa puissance et de sa présence dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen »? Amen. Donc, ici, on voit ça. Et je peux vous dire, moi, j'ai vécu un phénomène semblable à ça. Je n'ai pas vu les flammes de feu, mais en 2004, Dieu a mis son doigt sur moi, qui a totalement changé ma vie à tout jamais. Et quand j'ai vécu cette expérience-là, je me demandais même si j'étais pour survivre l'expérience. Je peux vous dire, c'était tellement intense, C'était comme l'électricité du ciel qui passait à travers mon corps. Puis j'ai été pris pendant 5 heures dans cette visitation de Dieu. Je peux vous dire, quand vous vivez quelque chose comme ça, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Ça change le cours de votre vie. Il y a une expérience qu'on peut vivre avec Dieu, surnaturelle. Et Dieu veut le faire parce que Dieu veut qu'on puisse faire des ravages dans le royaume de l'ennemi. Amen. Mais si on y va avec notre religion, avec la façon qu'on a toujours vécu l'Église, on ne le dérange pas beaucoup, le diable. Le diable veut qu'on puisse venir à l'Église, faire notre religion, on ne fait rien qui dérange personne, on retourne chez nous, on mange notre petit repas, on attend une semaine avant de revenir faire notre exercice religieux. Mais Dieu nous appelle à déranger l'ennemi. Dieu nous appelle à faire des grandes choses pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Et je peux vous dire, j'ai vécu d'autres expériences. Je ne vous en parlerai pas plein là, parce que vous allez trouver ça trop spécial. Mais j'ai vécu des expériences qui m'ont surpris. Mais c'était par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Puis Dieu veut le faire. Donc, c'est qui l'agent du baptême de puissance? Bien, c'est Jésus qui nous baptise dans l'Esprit. Donc, la première chose qu'on a vue tantôt, c'était le Saint-Esprit qui nous baptisait dans le corps de Christ pour qu'on puisse naître de nouveau. Mais par la suite, on voit que c'est Jésus qui, lui, nous baptise dans l'Esprit pour nous donner la puissance qu'on a besoin pour marcher victorieusement. Et je peux vous dire également que ce baptême de feu, c'est la porte d'entrée pour vivre le surnaturel, pour recevoir des visions. Il y a plein de choses que Dieu veut vous donner, mais c'est comme avant de vraiment céder notre vie à l'Esprit de Dieu et lui dire, « Seigneur, moi, je suis prêt à ce que tu fasses. Qu'est-ce que tu veux avec moi? » C'est comme si la porte est peut-être entrouverte. On n'est pas trop certain. Mais quand on dit, « Seigneur, moi, je te laisse entrer dans ma vie », là, Dieu ouvre la porte du ciel et puis il décide de se manifester dans nos vies comme il le veut. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, le Seigneur va répandre son esprit comme il veut, avec les dons qu'il veut, au moment qu'il veut, pour son service. Amen. Donc, on veut plus de Dieu, certainement. Et les mercredis soirs, quand on prie ensemble, moi, je veux vivre plus de la présence de Dieu, plus de la gloire de Dieu. Vous savez, la parole nous parle des anges. Croyez-vous dans cette armée céleste? Il y a des anges qui sont là. Et on sait que le nouvel âge, ils entendent parler de ces choses-là, puis eux, ils empruntent des choses de la parole de Dieu. Ils vont emprunter, puis ils vont pervertir le message, puis ils vont dire, on faut prier à nos anges, il faut avoir des boules de cristal, puis ils vont inventer toutes sortes de choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est nous qu'on a la vérité. Et la parole de Dieu dit que nos paroles de foi, de prière, de la parole de Dieu vont relâcher des anges. Et c'est pour ça que des fois, parmi nous, on peut ressentir une présence. Et moi, je crois même qu'il y a des anges de guérison qui sont envoyés pour amener un vent de guérison. Croyez-vous ça? On regarde dans la parole, les anges étaient présents. L'armée céleste ne sont pas à la retraite. Dieu n'est pas à la retraite. Dieu est encore vivant. Puis il y a plein de choses qu'on va vivre si on croit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si on croit rien, on verra rien. On est déjà qualifié pour rien vivre. Si on croit pas, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Moi, je crois, alors je veux la voir, la gloire de Dieu. Et on va en voir, on va voir encore plus que ce qu'on a vu à présent. Amen. Bon, aujourd'hui, par exemple, c'est le baptême d'eau qu'on va voir. Et baptême de repentance, on va regarder dans l'Ancien Testament, plutôt dans le Nouveau Testament, mais c'est encore sous l'Ancienne Alliance, sous le ministère de Jean-Baptiste. Donc, l'agent pour le baptême de repentance sous l'Ancienne Alliance, c'était Jean-Baptiste qu'on voit ici comme exemple. Et l'élément, c'était l'eau. Okay? Donc, Jean-Baptiste baptisait quelqu'un dans l'eau. C'est pas compliqué. Et on voit le modèle. Dans Luc 3:3, ça dit, « Il alla dans le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour ta rémission » pour la rémission, des péchés. Donc, on sait ici, là, les gens réalisaient qu'ils étaient pécheurs et puis là, voulaient s'engager publiquement à marcher avec Dieu. Ils croyaient qu'un jour le Messie viendrait. Alors, ils passaient par l'eau du baptême sous le ministère de Jean-Baptiste. Et par la suite, dans chapitre 3, verset 13 à 17, on voit le baptême de Jésus-Christ. Ici, je vais vous inviter à tourner là dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. On voit que c'est un baptême particulier. C'est un baptême glorieux que Jésus a vécu. Et quand on va lire ce texte-là ensemble, j'aimerais vous dire que quand j'ai fait des cours de préparation au baptême en Alberta, j'ai parlé à un groupe et puis je leur ai dit, vous savez, le même baptême que Jésus a vécu, où le ciel s'est ouvert sur sa vie, on peut même oser croire que le Seigneur va le faire pour vous. Pourquoi pas? Puis là, les gens ont dit, ah, ben, c'est vrai, pourquoi pas vivre un ciel ouvert aussi? Pourquoi pas pour moi? Alors, on va lire ensemble. Ici, ça dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Donc, nous voyons déjà ici que le Seigneur Jésus a été baptisé, pas parce qu'il laissait une vieille vie de péché, mais simplement pour accomplir ce qui était juste. Jésus voulait accomplir la volonté de Dieu parfaitement et il nous a servi de modèle ici. Et Jean ne lui résistait plus. Verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, on parle ici celle du Père, fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors ici, on voit le baptême de Jésus. Jésus était là, le Père a parlé du ciel et a approuvé, il a donné l'approbation sur son Fils. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Tout en même temps, on a vu la gloire de Dieu là et le ciel s'est ouvert. Quand j'ai partagé ça en Alberta, il y a un jeune homme, quand je l'ai baptisé, il est venu dans l'eau et on a prié pour lui, on l'a baptisé. Et quand il est sorti de l'eau, la présence de Dieu est tombée sur lui, il fallait sortir de l'eau. Parce que justement, il tremblait de la présence de Dieu, il priait en langue, il était visité par Dieu dans l'eau. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce que quelque chose de trop difficile pour Dieu? Ça ne veut pas dire que ça va arriver, on ne fabrique rien, on laisse Dieu faire ce qu'il veut. Mais quand ça arrive, c'est merveilleux. Pourquoi pas vivre la gloire de Dieu lors de votre baptême? Si Jésus l'a vécu, le ciel s'est ouvert. Peut-être après-midi, on va entendre, « Voici Sylvie, ma fille bien-aimée. » À qui j'ai mis toute mon affection? Hein, on ne sait pas. Pourquoi pas? Amen. Dieu nous aime. On est les chouchous du bon Dieu, comme vous savez. Amen. Donc ça, c'est le baptême qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Et le baptême d'eau, OK, qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? L'agent, habituellement, c'est un leader d'église qui va baptiser quelqu'un dans l'eau. Simplement, le chlore dans l'eau chez mes parents ne peut pas sauver personne. Ne peut pas laver le péché, il achète une bonne sorte de chlore, là. Peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, il n'y a rien qui peut enlever vos péchés. Donc, ce n'est pas l'eau qui sauve. Mais l'eau, ou le baptême d'eau, c'est simplement un symbole d'engagement. Dans 1 Pierre, chapitre 3, 21-22, ça nous parle ici, justement, que c'est un symbole. Et vous savez, je me souviens, ma sœur, elle, je pense, elle a été baptisée vers l'âge de 17 ans. Est-ce que c'est ça, à 17 ans? Avant, je peux vous dire, elle avait peur de se faire baptiser. Moi, j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Parce que je voulais m'engager publiquement devant les gens et dire « je crois en Jésus, je crois dans l'œuvre de la croix ». Mais ma sœur, elle avait le concept qu'une fois qu'elle serait baptisée, que ça voudrait dire qu'elle s'engageait devant Dieu de ne plus jamais pécher toute sa sainte vie. Puis elle dit « moi là, je ne peux pas me faire baptiser d'un coup si je commets un autre péché, d'un coup ». Puis on lui a dit « c'est sûr que tu vas commettre d'autres péchés ». Ça ne veut pas dire que tu vas être parfaite pour rester tes jours, c'est un engagement public. Amen. Donc, dans 1 Pierre 3, 21-22, ça dit, « Cette eau, en parlant du déluge de l'époque de Noé, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. » Donc, vous voyez, ce n'est pas l'eau qui sauve, mais c'est l'engagement envers Dieu. C'est de se donner à Dieu et de dire, « Seigneur, je te donne ma vie. » Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Wow! Ça, on pourrait prêcher un autre message là-dessus sur l'autorité du croyant, mais on ne le fera pas. Et on sait dans 1 Jean 1, 7, ça dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, encore une fois, l'eau ne peut pas nous sauver. C'est seulement l'œuvre de la croix, le sang que Jésus a versé. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui faisaient partie d'une certaine église m'ont dit, si tu n'es pas baptisé dans notre bain, tu n'es pas sauvé. Et pourtant, j'ai prêché le message « Salut par grâce ». Et puis ces gens-là disaient « Ah, oh, on croit comme toi. Oui, c'est vrai, c'est bon. Alléluia, on croit dans tout ça. » Mais là, ils voulaient me donner un petit livre d'à côté. Ils ont dit, je vais vous dire, c'est le livre de Mormon. Ils ont dit « Lis ça, là, maintenant. » J'ai dit « Bien, si tu dis que tu crois tout ce que je viens de dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ton livre de Mormon? Bien, tu n'as pas notre baptême. » J'ai dit « Bien, d'abord, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par la grâce. On est sauvé par le baptême. C'est ça que tu es en train de me dire. » Ils ont dit « Ben, oui, c'est ça. » Mais je dis, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile dit, là, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas par le baptême des Mormons. Ça vient pas par le baptême de l'Église de la Victoire. Le salut, ça vient pas par nous autres. C'est exclusivement par Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on se fait baptiser, c'est-tu pour devenir plus chrétien que quelqu'un d'autre ou dire qu'on fait partie d'une meilleure clique? Non, c'est un engagement public de notre foi en Jésus-Christ. C'est tout. Ça ne vous sauvera pas. OK? Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. Donc, et qu'est-ce que ça, c'est quoi l'engagement? C'est quoi l'illustration? Dans Romains chapitre 6, versets 4 à 5, ça dit, « Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. » Quand on descend dans l'eau, on est en train d'illustrer aux gens que je m'associe à Jésus-Christ, à la mort de Jésus. C'est comme si je suis mort à ma vie de péché, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Voyez-vous, alors on se fait baptiser, on démontre aux gens, ma vieille vie de péché est laissée dans l'eau, je sors de l'eau une nouvelle personne. Mais c'est sûr, c'est une illustration de quelque chose qui s'est passé déjà dans nos cœurs. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus, quand on est régénéré, on a reçu le baptême de la régénération, c'est pas tout le monde qui a vu ça. On ne peut pas le voir nécessairement avec nos yeux. Cependant, on va le voir par le comportement de la personne, mais on ne le voit pas vraiment. Alors, on fait cette chose, le baptême, par obéissance à la parole de Dieu et pour honorer aussi qu'est-ce que Jésus a fait, parce que lui nous a montré comme quoi c'était un modèle. Amen. Donc, le baptême d'eau, c'est tout. Et vous savez, le larron sur la croix qui a placé sa foi en Jésus, quand Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », il n'a pas dit « Pauvre larron, si seulement tu avais descendu de la croix et tu avais eu le temps de te faire baptiser, mais là, tu es cuit à l'os, oublie ça, mon homme. » Mais il n'a pas dit ça, il a dit « Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. » Donc, le salut, c'est une question du cœur, une question de foi, mais le baptême, c'est quelque chose d'important quand même. Donc, le baptême d'eau n'est pas l'entrée vers une élite spirituelle. Si vous pensez que votre baptême fait de vous un chrétien, un super Christian, puis les autres sont médiocres, c'est erroné, c'est pas biblique. OK? Donc, le baptême d'eau, quand nos frères et nos sœurs vont être baptisés, ils ne deviendront pas meilleurs que nous autres. Mais moi, j'ai été baptisé, mais ceux qui n'ont pas été baptisés, ils n'auront pas une badge de plus au ciel. Comprenez ça? Ils n'auront pas une badge. Et le baptême d'eau est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus, comme on a vu. Le baptême d'eau est l'identification à notre nouvelle vie en Jésus grâce à notre appartenance à son corps spirituel. Donc, non seulement est-ce que notre baptême, c'est un type de la mort et la résurrection à Jésus-Christ, mais c'est également un type de notre incorporation dans le corps de Christ. Maintenant, on fait partie de son corps vivant. Nous sommes des pierres vivantes dans l'Église, dans l'édifice spirituel. Et c'est important de comprendre qu'on fait partie de l'Église également. Amen. Donc ça, c'est merveilleux. La vie de la résurrection, dans Galates 2:20, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voyez-vous, quand on est un enfant de Dieu, là, on ne vit pas notre propre puissance. Maintenant, c'est l'Esprit de Christ qui vient en nous, qui nous donne l'onction pour marcher et de vivre la vie chrétienne. Donc, c'est ça la vie de la résurrection. C'est que peu importe qu'est-ce qui peut se passer, peu importe les épreuves, on a la vie éternelle en dedans de nous. Puis c'est pas juste n'importe quelle sorte de vie, c'est la vie de résurrection qui nous fait surmonter toutes les épreuves de l'ennemi, toutes les choses négatives. On sait que même si on mourait aujourd'hui, qu'on passerait l'éternité avec Dieu et qu'un jour on serait ressuscité. Amen. Ça, c'est un espoir qu'on a. J'ai jasé l'autre jour avec quelqu'un qui est un parent d'un enfant à l'école, de ma fille. Puis il me jasait, il dit, tu sais, il dit, moi là, il dit, je crois qu'on est comme des animaux. Quand on meurt, ça vient de s'éteindre. On va être enterré, puis c'est tout. Il faut que je vive ma vie, avoir du plaisir aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il dit demain que je vais avoir d'autres choses? Il dit, c'est ça, c'est tout. Puis j'ai dit, ah, waouh, c'est triste ça. J'ai dit, tu crois pas que tu vas t'en aller au ciel, que tu vas avoir. Ben non, il dit, c'est tout, ça vient de s'éteindre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. On va vivre éternellement. Et l'affaire qui est triste, c'est quand on pense que ça vient de s'éteindre-là, ça ne vient pas de s'éteindre. Si on n'a pas fait de Jésus-Christ Seigneur de notre vie, on va réaliser après là, qu'on aurait dû penser un petit peu à notre éternité. Des fois, on pense à l'assurance vie, l'assurance auto, assurance maison, comme on dit des fois dans des funérailles. Il faut se rappeler également de l'assurance de l'éternité et placer notre foi en Jésus-Christ. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Romains 8, verset 11, ça dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, cette vie de résurrection, c'est de quoi merveilleux. On doit se réjouir qu'on ne vit pas selon la chair, on vit selon l'esprit. Et quand on vit selon l'esprit, Dieu nous conduit par son esprit. Il nous conduit vers les verts pâturages. Mais l'ennemi de nos âmes a l'agenda. Il connaît déjà qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qu'il veut faire. L'ennemi a un agenda. Okay? L'agenda de Satan, c'est votre identification au cycle de la mort. Il va enlever vos yeux sur le cycle de la vie qui est déjà en opération dans vos vies. Il va enlever vos yeux sur la vie de résurrection qui est en vous et il veut vous garder terre à terre. Il ne veut pas que vous mettiez vos yeux dans la parole de Dieu pour connaître votre héritage. Il veut que vous pensiez que vous êtes comme les autres. Mais savez-vous, vous n'êtes pas comme les autres. Nous sommes différents. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un héritage. Nous avons des privilèges que le monde normal n'a pas. Parce que nous ne sommes pas normal. Et quand les gens disent « Ouais, mais c'est normal de vivre ça. » Oui, c'est vrai, c'est normal, mais c'est pas normal pour moi. Parce que moi, je suis un citoyen du ciel et j'ai un héritage que le monde normal n'a pas. Amen. Donc, moi, mes yeux, là, même si l'ennemi a un agenda, il veut pas que je m'identifie à le cycle de la vie, mais que je m'identifie au cycle de la mort, ça, c'est pas pour moi. Puis, il faut se rappeler de ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et une des choses, qu'est-ce qu'il veut faire aussi? C'est éliminer votre identification au corps de Christ. S'il peut faire une chose, l'ennemi, c'est vous isoler et vous mettre à côté du corps de Christ et vous dire, c'est bien beau t'accepter, Seigneur, là, mais si seulement tu peux t'isoler puis t'éloigner du corps de Christ, il sait que vous allez neutraliser dans votre marche chrétienne. Puis là, on va regarder ensemble, on va examiner quelques passages ici que je trouvais très importants. Parce qu'on n'en parle pas vraiment dans les églises chrétiennes. Dans toute ma vie chrétienne, j'ai été sauvé vers l'âge de 3-4 ans. Puis je peux vous dire, je ne me souviens jamais quand on a parlé de ça à l'église. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il faut prêcher tout le conseil de Dieu, n'est-ce pas? Pas juste les versets qu'on aime. Des fois, il faut regarder des textes qui sont un petit peu plus difficiles. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, on va regarder ensemble comment est-ce que l'ennemi veut regarder, shifter nos yeux de sur le corps de Christ, les enlever et qu'on vive différemment. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire beaucoup de versets ici. Ça dit, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. Donc ici, on connaît que dans l'église, il y avait un homme qui vivait de l'inceste finalement. Il vivait avec la femme, sa belle-mère finalement. Et vous faites encore les prétentieux, vous devriez au contraire en être affligés. Et l'auteur d'une telle action devrait être chassé du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent du corps, je suis près de vous en esprit et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus celui qui a si mal agi comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Vous devez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit ou pour la destruction de la chair dans Louis II. Mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. Est-ce que ce texte-là, vous l'avez entendu prêcher souvent? Chaque dimanche matin? Non, probablement pas. Verset 6, « Il n'y a pas de quoi pour vous vanter. Vous savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. » Vous l'êtes déjà, en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sanctifié. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivaient dans l'immoralité, ou dans la Bible du Sommeur, ça dit, ou de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Je ne visais pas, d'une façon générale, tous ceux qui sont dans ce monde, sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un tout en se donnant le nom de chrétien serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Dieu les jugera, mais ne devriez-vous pas même juger les membres de votre communauté? Il est écrit, en effet, « Chassez le méchant du milieu de vous ». Ici, le texte, le contexte, ça nous parle d'un homme incestueux. Et je peux vous dire, j'ai déjà vu dans une église où on connaissait qu'il y avait un père incestueux dans l'église envers ses filles. Et puis, le leadership de l'église ne faisait rien. C'était comme, on n'en parle pas, on fait semblant que ce n'est pas là. Bibliquement, pour que la vie de résurrection puisse opérer en nous, et comme l'apôtre Paul ici a parlé de la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait de la pureté dans notre milieu, dans le camp. Croyez-vous ça ce matin? Il faut avoir de la pureté. Moi, je veux voir la gloire de Dieu éclater parmi nous. Et le texte, je vous ai lu, c'est un long texte, mais ici, là, on voit l'apôtre Paul qui dit, prenez cette personne-là qui refuse de marcher dans la sainteté et livrez-le à Satan. Waouh, ça ne semble pas très, très gracieux. Ça ne donne pas des picotements dans le cœur puis dire, waouh, c'est merveilleux. Mais à quelque part, c'est quand même dans l'amour, parce que l'apôtre Paul, je peux vous dire, il marchait dans l'amour. Il marchait dans l'amour. Et puis, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on retrouverait ça dans la parole? Pourquoi cette élimination d'un frère, admettons, est incestueux? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dirait ça? Bien, premièrement, la discipline du croyant immoral et sa réconciliation future. Toujours l'objectif, quand l'apôtre Paul disait ça, c'était pas de mettre quelqu'un de côté, c'était pas ça l'objectif, mais c'était de un, fallait qu'il vive une discipline et qu'il comprenne que l'inceste dans l'Église, c'était pas toléré. De nos jours, malheureusement, c'est toléré dans certaines Églises. C'est pas normal. Ça, on dit ça, l'inceste, mais il y a plein d'autres choses qui sont tolérées. Mais pour que la gloire de Dieu vienne parmi nous, il va falloir qu'on marche dans la sainteté. Ce n'est pas rien de nouveau, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est biblique. Amen. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime ça entendre parler de ça, mais il faut prêcher tout le conseil. Ça dit la discipline du croyant immoral et sa réconciliation future. Donc, l'objectif, c'est de voir la personne se repentir et de revenir à Dieu, n'est-ce pas? Et la prochaine chose, c'est la protection de l'Église du cycle de la mort. Vous savez, on a l'onction de résurrection, on a cet esprit en dedans de nous, et dans l'Église, on a l'esprit de résurrection qui est ici, et c'est pour ça qu'on va voir des signes, des prodiges, des miracles parmi nous. C'est pour ça que Jésus a dit, on va même ressusciter les morts. Mais parce qu'on a l'esprit de résurrection en nous. Mais comment ça, il y a des barrières? Puis on a fait des études ensemble avec les racines qu'on a des fois dans l'Église, les racines de rejet, les racines du déshonneur qui empêchent la gloire de Dieu. Mais une autre chose aussi, c'est ça, le cycle de la mort qui opère parmi nous. Si on marche dans la mort, on récolte la mort, et là on s'attend qu'on va vivre la gloire. Non, je m'excuse, faut revenir à la parole de Dieu. Donc, pourquoi? Bon, première chose, la discipline du croyant. Dans Galates 1, ça dit, « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à toi-même, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Voyez-vous, quand on connaît une situation, admettons, le père incestueux, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aller vers le frère, OK? Et le redresser. C'est ce qu'on veut faire, c'est toujours, toujours gagner la personne. L'objectif, c'est toujours de gagner notre frère. C'est pas de crucifier quelqu'un et dire « on te rejette ». C'est pas ça le cœur de Dieu. Dans Matthieu 18, 15 à 20, ça dit « si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul ». Faites pas une publicité de l'Église et dites à tout le monde le péché de votre frère. C'est pas ça que Dieu dit. Il dit ici « entre toi et lui seul ». S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voyez-vous ici? L'objectif, c'est de gagner notre frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Encore une fois, ça n'a pas marché tout seul. Vas-y maintenant avec deux ou trois personnes pour essayer de gagner le frère, pour qu'il puisse se repentir de son péché. Verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Pourquoi est-ce qu'on doit le dire à l'Église? Pour que l'Église soit protégée, pour pas que les gens de l'Église pensent que c'est correct de vivre d'une certaine façon. Parce que quand on dit rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans l'Église, et là on dit, ah ben moi je peux vivre dans le cycle de la mort parce que mon frère ici, il vit dans le cycle de la mort, puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune discipline qui se passe dans sa vie, et puis finalement c'est tout correct, on bénit cette chose. Mais non, Dieu nous appelle à vivre ces choses-là qu'on vient de voir. Et ça dit, au verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ça veut-tu dire qu'on arrête d'aimer la personne? Non, mais on ne considère plus la personne comme étant un frère parmi nous. Parce que si on considère comme un frère, on est en train d'approuver de son inceste, admettons. Vous comprenez? Je sais que vous n'êtes pas en train de sauter de joie que j'en parle ce matin. Mais savez-vous, c'est des clés qu'on a besoin pour vivre la gloire de Dieu. L'autre chose, protection de l'Église du cycle de la mort. Proverbe 22, 10, ça dit « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » Et dans titre 3, 10, ça dit « Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. » Donc, protection de l'Église, c'est le cœur de Dieu que ses enfants puissent vraiment, non seulement juste recevoir la vie éternelle et la vie abondante, mais qu'ils puissent vivre dans cette dimension de la vie de résurrection, qu'on puisse être connecté constamment avec la vie de la résurrection. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Et Dieu, il voit du ciel, il voit son Église avec plein de choses qui se passent dedans. Et il aimerait tellement ça qu'on mette en pratique la parole. Parce que si on la mettait en pratique, puis on prenait un frère, puis on dit « Mon frère, tu fais de quoi? Mais notre cœur est brisé pour toi. On veut que tu reviennes à Dieu. Repends-toi. » Puis quand on va vers un frère, puis on a un chagrin de Dieu, on aime la personne. Juste une personne peut le gagner facilement. Après, une deuxième personne y va, une troisième. « S'il te plaît, mon frère, sois réconcilié avec Dieu. Détourne-toi de ton péché. Reviens à lui. » Là, le frère, finalement, il va dire « OK, je m'en viens, je me repens. » Et là, il n'y a absolument rien qui peut freiner la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher la gloire de Dieu de descendre parce qu'il y a de la pureté dans le camp. Amen. On doit être connecté à cet esprit de résurrection. Et l'autre chose, le divin mystère. On vous a dit ici que les gens qui étaient remis en dehors de l'Église, c'était pourquoi? Pour les discipliner, qu'ils puissent avoir soif de revenir, pour être reconnectés. Mais il y a des gens dans notre société, dans nos églises, qui font l'auto-élimination. Ils vont s'éliminer eux-mêmes de l'Église. Ils vont dire, moi, je ne veux plus y aller à l'Église. Il y a des hypocrites à l'Église. Il y a X, Y, Z. Il y a plein de raisons pourquoi je trouve des fautes dans l'Église. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? Quand on est en dehors du corps de Christ dans lequel nous avons été baptisés, qu'est-ce qui se passe quand on marche en dehors de notre famille chrétienne? On est livré à Satan. On le fait nous-mêmes. Au lieu que ce soit l'Église qui nous envoie, c'est maintenant, c'est nous-mêmes, on se livre à Satan. Et on est terrassé par l'ennemi. On vit plein d'horreurs dans nos vies chrétiennes. Puis on se demande, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu dit, mon berger est dans la bergerie. Tu es toujours à l'extérieur de la bergerie. Je t'appelle à être dans la bergerie. Savez-vous, le berger est dans la bergerie. Donc, Dieu nous appelle à être dans une église locale, de marcher dans l'église locale. Et quand on est là et on marche selon la volonté de Dieu, avec plein de choses qu'on peut enseigner, on est premièrement sous le parapluie de la protection dans Malachie 3.10. On remet à Dieu qu'est-ce qui lui appartient, les dîmes et les offrandes. On marche dans l'amour avec tout le monde. Quand on fait toutes les choses que Dieu demande de faire, qu'est-ce qui se passe? On est protégé. On vit protégé. On vit différemment. Mais si vous venez à l'église une fois ou six mois, ça ne marchera pas, votre vie chrétienne. Je peux vous le dire. Vous allez dire, ah, ben, je suis sauvé quand même. Oui, peut-être tu es sauvé quand même, mais le privilège ou les privilèges que tu pourrais vivre, tu ne les vis pas. C'est impossible. Parce que Dieu, la gloire, ce n'est pas sur une personne. La gloire est répandue sur une compagnie corporative. La gloire de Dieu, là, il a dit, je vais envoyer mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est sur toute chair, c'est ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Il n'a pas dit sur Joe Blow tout seul sur l'île qui ne veut pas s'associer avec personne parce qu'il est meilleur que tout le monde. Non! Mais c'est sur tout le monde, l'Église de Jésus-Christ, ensemble. Amen? Il faut être ensemble. Puis on travaille ensemble. Pourquoi qu'on travaille ensemble? Parce qu'on a un mandat accompli. Nous, notre mandat ici, c'est de rejoindre la francophonie par le message de la foi, par la diffusion médiatique. C'est ça notre vision ici, notre mandat. Alors, on travaille tout le monde ensemble pour que ça l'arrive. Et savez-vous, Dieu voit notre fidélité et Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. On reçoit des courriels de l'Afrique, de l'Europe, des gens qui sont touchés par le ministère. Comment ça? Mais si j'étais tout seul puis je disais, moi, je ne vais pas à l'église, je fais mon affaire, je prêche seul dans mon salon avec une caméra, je pourrais faire la même chose. Mais l'onction de Dieu ne sera pas là comme elle est là aujourd'hui. Parce qu'ensemble, c'est ensemble que Dieu veut travailler. C'est une équipe qui s'élève. C'est une armée qui s'élève. Donc, on ne veut pas s'éliminer. Si on l'a déjà fait, on dit, ben, Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui, c'est fini. Satan, là, qui voulait me séduire à penser que c'était meilleur en dehors de la bergerie, aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas vrai. C'est un menteur, le diable, c'est un mensonge et le père du mensonge. Aujourd'hui, je mets ma vie en règle. Amen. Et dans Hébreux 10, verset 23, on est exhorté ici. Là, c'est-à-dire, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. verset 26, ça dit « En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. » Donc, ici, ça veut dire si la vérité ne nous convient pas, vous dites « Le sacrifice de Jésus, ça ne me convient pas, ok? Dieu n'a pas d'autre sacrifice à vous offrir. Il y a seulement un chemin que Dieu nous a offert. » Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme justement ici, on voit dans Hébreux. On doit s'encourager mutuellement. On voit un frère qui traîne la patte, qui a de la misère. On n'est pas là pour l'accuser. On est là pour dire, « Hey, mon frère, je vois que tu es en train de boiter. Je peux-tu t'aider à marcher? Je peux-tu prier avec toi? Je peux-tu prendre du temps avec toi et voir la main de Dieu intervenir dans ta vie? » Mais si vous êtes tout seul en train de boiter, vous boitez tout seul, là, vous tombez à terre, puis finalement, vous partez loin de la présence de Dieu, des années de temps, vous vous refroidissez. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ça la vie de résurrection que Dieu veut pour ses enfants. Mais ensemble, quand on marche ensemble, on est béni. Et mon dernier point, la réconciliation est possible. Ça fait longtemps, vous avez été loin de Dieu ou peut-être loin du corps de Christ. La réconciliation est possible. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, je peux vous dire aujourd'hui par l'Internet, la réconciliation est possible. Dieu a tout fait pour être réconcilié avec vous. On était séparés de Dieu par notre vie de péché. Mais Jésus, par Dieu dans son amour, est descendu, s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, puis il a payé pour notre dette de péché, pour qu'on soit totalement libérés. Dans Colossiens 1, 21-22, ça dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Heureusement, on peut marcher totalement saint, totalement encouragé. Notre vieille conscience de péché a été totalement purifiée et on a été réconcilié avec Dieu. Cette réconciliation est possible. Mais l'ennemi, il a un agenda. Son agenda, c'est toujours votre destruction. Il veut vous enlever vos yeux sur le corps de Christ et même peut-être juste voir les défauts dans le corps de Christ. Je vais vous dire, il y en a des défauts dans le corps de Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que j'en fais partie. Donc, c'est sûr, il y a des défauts partout. Il y en a des défauts, mais malgré ça, l'amour de Dieu ne faillit jamais. Puis savez-vous, si vous m'aimez avec les défauts, là, vous pouvez prier pour moi que Dieu m'enlève ces défauts-là. Et là, Dieu va me changer. Gloire à Dieu. Et pendant que vous priez pour moi, moi, je vais prier pour vos défauts. Seigneur, délivre-le. Non, non, mais c'est vrai, ensemble, quand on marche dans l'amour, peu importe les choses qui nous dérangent, savez-vous, l'amour ne faillit jamais. Mais cette réconciliation est possible. Et quand on est vraiment réconcilié avec Dieu, et quand on vit vraiment la gloire de Dieu, là, watch out, là, le Québec va être sauvé. Moi, là, je crois que Dieu est en train de nous préparer les rêves, les visions, toutes les choses que Dieu est en train de faire, l'armée qui est en train de s'élever. C'est pas pour rien, enfant de Dieu, c'est pas pour rien. Dieu, là, il y a de quoi? Le rêve de ma femme, je suis sûr, j'ai dit la moitié comme il faut, là, je suis sûr, je regardais son visage. C'est pas exactement ça, c'est pas exactement. Je suis sûr qu'elle a toutes sortes de façons qu'elle aurait bien expliqué, là. Mais je peux vous dire, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de dire, je veux vous protéger de telle chose. Je veux vous préparer, vous laisser savoir qu'il y a plein de nouveaux-nés qui s'en viennent. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Si un nouveau-né arrive parmi nous et dit, moi, je veux savoir comment marcher la vie chrétienne, bien là, ils vont pouvoir nous voir et dire, moi, là, je peux voir Mathilde, ça, c'est mon modèle. Je veux marcher comme elle. Elle a pris, elle lit sa parole, elle est fidèle. Quand quelqu'un est dans le problème, dans la misère, je vois Mathilde qui aide quelqu'un. Est-ce qu'elle pourrait dire la même chose de vous? Est-ce que vous êtes un modèle aujourd'hui? Savez-vous, on peut le devenir. Si on ne l'est pas, savez-vous, ne sortez pas de cette place condamnée, ne recevez aucune condamnation, quittez cette place en prenant une décision, en disant, ouais, il y a telle chose, ça me fitait, je pouvais mettre le chapeau. Oui, ça marchait avec moi. Alors aujourd'hui, quittez heureux, dire, hey, moi, là, cette vie de résurrection-là, là, je vais la vivre au maximum. Et toutes les promesses de Dieu, il n'y en a pas une là, que je vais passer à côté, parce que je donne ma vie à Dieu 100%, 100% à lui. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu.
Canet, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.